Et ainsi parlaient-ils lorsqu'ils entendirent une clameur dans les bois. Et ils s'immobilisèrent, tels deux rochers gris, prêtant l'oreille. Mais la voix était mélodieuse, bien que toute baignée de chagrin. Et elle appelait sans cesse, semblait-il, un nom, comme un qui a perdu ce qu'il aime. Et ils attendirent. Et voilà qu'il s'en vint un, en effet, qui parcourait les bois, et ils virent que c'était un homme de haute taille, en armes et vêtu de noir, avec une longue épée à nu. Et ils s'étonnèrent car la lame était noire, elle aussi, mais son fil étincelait, clair et froid. La douleur sillonnait le visage de l'homme. Et lorsqu'il aperçut la dévastation de l'Ivryn, il cria son désespoir, disant
« Ivryn, faille l'Ivryn, Gwyndor et Beleg, ici un jour je fus guéri, mais jamais plus je ne boirai à la coupe de la paix. »
Et il s'enfuit rapidement vers le nord, comme qui court à la poursuite de quelqu'un ou en mission pressante. Et ils l'entendirent crier
« Faille l'Ivryn, Finduilas !»
jusqu'à ce que sa voix s'éteignît au fond des bois. Mais ils ignoraient que Nargothrond était tombé, et que c'était Turin, fils de Urin, le noir épée, et qu'ainsi pour un bref instant, et par la suite jamais plus, se croisèrent les chemins de Turin et de Tuor, qui étaient cousins. Lorsque fut disparu le noir épée, Tuor et Volonwë poursuivirent leur marche quelque temps encore, bien que le jour fût venu. Car le souvenir de son désespoir les accablait et ils ne pouvaient souffrir de rester aux abords de l'Ivryn profanée. Mais bientôt ils songèrent à se mettre à couvert, car la rumeur d'un mal gagnait tout le pays. Ils dormirent peu et d'un sommeil troublé, et le jour s'écoulait toujours plus sombre. Et quand vint la nuit, une forte neige se mit à tomber et il gela à pierre fendre. Et dès lors, la neige et le gel ne leur laissèrent point de répit, et 5 mois durant, le cruel hiver, dont le souvenir s'est perpétué, tint le nord en ses fers. Et Tuor et Volonwë éprouvèrent les tourments du froid, et ils craignaient que la neige ne les révélât à la traque ennemie ou encore de tomber dans des pièges traîtreusement dissimulés. Pendant 9 jours, ils progressèrent toujours plus lentement et plus péniblement, et Volonwë obliqua un peu vers le nord jusqu'à ce qu'ils eussent franchi les 3 affluents du Teiglin. Et alors, il prit de nouveau à l'est, laissant derrière eux les montagnes, et il avança avec prudence jusqu'à ce qu'ils eussent passé la Glithwy et atteint la rivière Maldwyn, et elle était entièrement prise par les glaces. Or donc Tuor dit à Volonwë, « Cruel est ce gel, et la mort me gagne si elle ne te gagne pas toi. » Car ils étaient en bien mauvaise posture. Depuis longtemps, ils n'avaient trouvé de nourriture sur cette terre sauvage. Et le pain de route s'épuisait, et ils avaient froid, et ils étaient là.
C'est chose terrible que d'être pris entre la malédiction des Valar et la malignité de l'ennemi, dit Volonwë. Ai-je donc échappé à la gueule de la mer pour demeurer gisant sous la neige?
Mais Tuor dit, avons-nous encore loin à aller? Car enfin, Volonwë, il te faut à présent renoncer au secret à mon égard. Me conduis-tu droit, et où? Car si je dois user mes forces dernières, je voudrais au moins savoir à quel effet.
Je t'ai conduit aussi droit que en conscience je le pouvais, répondit Volonwë. Sache donc maintenant que Turgon vit encore dans le nord des terres des Eldar, bien qu'il soit fort peu à y croire. Déjà nous approchons de lui, et cependant, même à vol d'oiseau, il y a encore des lieues et des lieues à faire. Et il nous faut encore franchir le Sirion. Et de terribles maux rencontrerons-nous peut-être dans l'entre-deux. Car nous sommes sur le point d'atteindre la grande route qui jadis descendait de la Minas du roi Finrod jusqu'à Nargothrond, et les serviteurs de l'ennemi seront là, aux aguets.
« Je me comptais le plus endurant des hommes, dit Tuor, et j'ai supporté les peines de bien des hivers dans les montagnes. Mais en ce temps-là, j'avais au moins une caverne pour m'abriter et du feu. Et je doute de mes forces, s'il nous faut aller beaucoup plus avant, souffrant la faim en cette rude saison. Mais allons toujours, et aussi loin que nous le pouvons, jusqu'à ce que s'épuise l'espoir.
Il ne nous reste guère d'autre choix, dit Volonwë, sinon celui de nous coucher ici et d'appeler de nos voeux le sommeil de neige.
Et ils peinèrent ainsi tout ce long jour amer, redoutant moins les dangers de l'ennemi que ceux de l'hiver. Mais à mesure qu'ils avançaient, la neige se faisait moins profonde, car ils se dirigeaient à nouveau vers le sud, descendant le val du Sirion et laissant loin derrière eux les montagnes du Dorlomine. Dans le crépuscule qui allait s'épaississant, ils atteignirent la grande route au pied d'une haute pente boisée. Soudain, ils perçurent des voix, et épiant à travers les ramures, ils virent une lueur rouge en contrebas. Une compagnie d'orques campait au milieu de la route, se pressant autour d'un grand feu de bois.
« Gulf Anglamoth !» murmura Tuor. « Maintenant l'épée jaillira de dessous le manteau. Je risquerai volontiers la mort pour me rendre maître de ce feu, et même de la viande d'orque serait une aubaine. »
« Que non !» dit Volonwë. « En cette quête, seul le manteau servira. Tu dois renoncer au feu, ou bien renoncer à Turgon. Cette bande n'est nullement isolée dans ces contrées sauvages. Ta vue mortelle ne peut-elle donc distinguer au loin les flammes d'autres campements au nord et au sud? Le tumulte amènera toute une armée sur nous. Écoute-moi, Tuor. La loi du royaume caché interdit que l'on s'approche de ses portes avec des ennemis aux trousses. Et cette loi, je ne la transgresserai pas, ni à la demande d'Ulmo, ni sous peine de mort. Donne l'éveil aux orques et je te quitte.
Alors qu'on les laisse, dit Tuor. Mais qu'il me soit encore donné de voir le jour où il ne me faudra pas me dérober au regard d'une poignée d'orques comme un chien couard.
Viens donc, dit Volonwë. Ne dispute plus, ou ils flaireront notre présence. Suis-moi.
Il se coula alors parmi les arbres et obliqua vers le sud, marchant contre le vent, jusqu'à ce qu'il soit parvenu à mi-chemin entre le feu de ses orques et le suivant. Là, il se tint immobile longtemps, prêtant l'oreille.
« Je n'entends personne bouger sur la route, » dit-il, « mais nous ne savons pas ce qui peut se trouver tapis dans l'ombre. »
Il scruta les ténèbres et frissonna.
« Le mal est dans l'air, » murmura-t-il. « Hélas, là-bas s'étend le pays de notre quête et notre espoir de survie, mais la mort va et vient dans l'entre-deux. »
« La mort nous environne de toutes parts, » dit Tuor. Mais il ne me reste de force que pour le chemin le plus court. Ici dois-je traverser ou périr. Je me confie au manteau d'Ulmo, et il te couvrira toi aussi. À présent, je prends la tête. »
Ce disant, il gagna le talus, et tenant Volonwë étroitement embrassé, il se drapa dans la cape grise du seigneur des eaux, et il avança. Tout était immobile. Le vent froid soupirait, balayant l'antique chaussée, et soudain lui aussi se tut. Dans l'intervalle, Tuor sentit un changement dans l'air, comme si le souffle du pays de Morgoth s'était tari un instant, et telle une lointaine évocation de la mer, une brise d'ouest souffla. Semblable à une brume grise dans le vent, ils traversèrent la voie pavée et pénétrèrent dans un taillis qui la bordait à l'est. Soudain s'éleva tout près un hurlement sauvage, et quantité d'autres lui répondirent en chœur le long de la route. Un cor discordant retentit, et des pas de course se firent entendre. Mais Tuor poursuivit sa marche. Il avait appris assez de la langue des orques durant sa captivité pour comprendre le sens de ses cris. Les sentinelles avaient décelé le rôdeur et les avaient entendus, mais personne ne les avait vus. La chasse dès lors était donnée. Avec Volonwë à ses côtés, il se précipita en avant et, trébuchant, il escalada désespérément le long coteau enfoui sous les ajoncs et les myrtilles qui poussaient parmi les bosquets de sorbiers et les bouleaux nains. Ayant atteint la crête, ils firent halte, écoutant les cris derrière eux, et les orques qui se bousculaient dans les broussailles à leurs pieds. Près d'eux, un roc se dressait hors d'un fouillis de ronces et de bruyères, et sous ce roc était un repère, tel qu'en souhaitait une bête traquée, espérant échapper à la poursuite, ou du moins, le dos au rocher, vendre chèrement sa vie. Tuor tira Volonwë dans l'ombre opaque, et côte à côte, sous la mante grise, ils tapirent, haletant, comme des renards à bout de force. Ils ne dirent mot, ils étaient tout oreilles. Et les cris des chasseurs allèrent s'affaiblissant, car les orques ne pénétraient jamais profondément dans les terres sauvages avoisinant de part et d'autre la route, mais se contentaient de patrouiller le long de la voie. Ils ne se préoccupaient guère de fugitifs isolés, mais redoutaient les espions et les patrouilles ennemies en armes. car Morgoth avait placé une garde sur la grande route, non pas pour capturer Tuor et Volonwë, dont pour l'instant il ignorait tout, ni personne en provenance de l'ouest, mais pour guetter le Noir Épée, de peur qu'il s'échappât, en quête des prisonniers de Nargothrond, et peut-être avec l'aide venue du Doriath, chercha à les délivrer. La nuit passa, et le morne silence s'apesantit à nouveau sur les terres désolées. Tuor dormait, harassé et fourbu, sous le manteau d'Ulmo. Mais Volonwë s'était glissé dehors, et il se tenait là, dans un silence de pierre, un pas vide, cherchant à percer l'ombre de ses yeux d'elfe. Au petit jour, il réveilla Tuor, qui, rampant au dehors, vit que le temps s'était momentanément adouci, que les nuages noirs avaient fui. Puis vint une aube pourpre, et il pouvait distinguer à l'horizon les cimes de montagnes inconnues étincelant au feu du levant. Alors Volonwë dit à voix basse « Alae, Ered Enekoriath, Ered Eembar Nin » car il savait qu'il contemplait les montagnes encerclantes et les murailles du royaume de Turgon. À leurs pieds vers l'est, dans un vallon encaissé et ombreux, dormait le charmant Sirion, si souvent chanté. Et au-delà, noyé de brouillard, une terre grise s'élevait de la rivière jusqu'à la ligne brisée des collines au pied des monts. « Là s'étend le Dimbar, » dit Volonwë. « Comme j'aimerais que nous y soyons, car il est rare que nos ennemis s'aventurent là-bas. Du moins, il en était ainsi quand le pouvoir d'Ulmo s'exerçait encore avec force sur le Sirion. Mais à présent, tout a pu changer. Hormis le péril de la rivière, elle est déjà profonde et rapide, et même pour les Eldar dangereuse à traverser. Mais je t'ai convenablement guidé, car là-bas, juste un peu au sud, brille le gué de Brithiac, là où la route de l'est qui autrefois partait du Taras à l'ouest franchit la rivière. Personne aujourd'hui n'ose l'emprunter, sinon poussé par la mère nécessité, ni elfe, ni homme, ni orque, car la route conduit à Dungortheb et au pays de l'effroi, entre le Gorgoroth et la ceinture de Méliane. Et depuis longtemps, elle est perdue dans la broussaille ou réduite à un sentier envahi de mauvaises herbes et de ronces grimpantes. Alors Tuor regarda là où Volonwë indiquait, et au loin il perçut un chatoiement comme d'eau vive sous la brève lumière de l'aube. Mais au-delà se dessinait une ombre, où la grande forêt de Brethil escaladait les hauteurs lointaines vers le sud. Lors, avec prudence, ils cheminèrent le long du vallon jusqu'à atteindre la voie antique qui descendait du carrefour aux confins de Brethil, où elle croisait la grande route venant de Nargothrond. Tuor vit alors qu'ils étaient parvenus aux abords du Sirion. En ce lieu, les rives de l'étroit vallon encaissé s'évasaient, et les eaux de la rivière, comprimées par la caillasse, s'épanchaient sur de vastes hauts fonds où mille ruisseaux allaient bruissants. Un peu plus loin, la rivière à nouveau rassemblait ses eaux et, se creusant un nouveau lit, coulait vers les grands bois et s'évanouissait dans une brume épaisse que l'œil de Tuor ne pouvait percer. Car là s'étendaient, bien qu'il ne le sût pas, les marches septentrionales du Doriath, à l'ombre de la ceinture de Méliane. Tuor voulut se hâter sur l'heure vers le gué, mais Volonwë le retint, disant « Nous ne pouvons franchir le Brithiac au grand jour, tant que demeure l'ombre d'une éventuelle poursuite. » « Alors resterons-nous ici à pourrir ?» dit Tuor, « car une telle éventualité persistera assurément tant que durera le royaume de Morgoth. Viens, sous le couvert du manteau d'Ulmo, nous devons poursuivre. » Volonwë hésitait encore, et il regardait en arrière en direction de l'ouest. Mais la voie derrière eux était déserte, et les alentours paisibles, sinon pour la rumeur des eaux. Il leva les yeux, et le ciel était gris et vide, car n'y volait pas un seul oiseau. Et soudain son visage s'éclaira de joie, et il s'écria à voix haute « Tout va bien. Le Brithiac est encore gardé par les ennemis de l'ennemi. Les orques ne nous traqueront pas jusqu'ici. Et sous le manteau, nous pouvons passer à présent sans hésiter. » « Quelle est cette chose nouvelle que tu as aperçue ?» dit Tuor. « Courte est la vue des mortels, » dit Volonwë. « J'aperçois les aigles des Crisaegrim. Et ils viennent à nous. Vois donc !» Alors Tuor s'immobilisa et regarda. et bientôt, très haut dans les airs, il entrevit trois formes qui, depuis les lointaines cimes que la brume regagnait, faisaient force d'ailes vers eux. Lentement descendirent les aigles en décrivant de larges cercles, et soudain, ils fondirent sur les voyageurs. Mais avant que Volonoué ait pu les héler, ils se détournèrent et d'un puissant coup d'aile s'envolèrent vers le nord en suivant le tracé de la rivière.
« Partons maintenant !» dit Volonoué. « S'il y a un orque dans les parages, il sera plaqué au sol terrorisé jusqu'à ce que les aigles soient loin. »
En toute hâte, ils dévalèrent une longue pente et franchirent le Brifiac, marchant souvent à pied sec sur des bancs de galets ou pataugeant dans les hauts fonds, avec de l'eau à peine aux genoux. Très froide et claire était l'eau, et il y avait de la glace dans les fosses les moins profondes, là où les torrents aventureux s'étaient égarés dans la pierraille. Car jamais, même lors du cruel hiver de la chute de Nargothrond, le souffle implacable du nord n'avait pu geler le cours principal du Sirion. Sur l'autre rive du gué, ils trouvèrent une ravine, sans doute le lit d'un ancien torrent où ne coulait plus désormais le moindre filet d'eau. Et pourtant, il avait été un temps, semble-t-il, où, jailli du nord et des flancs des Écoriath, le torrent avait foré son chenal encaissé, charriant toutes les pierres du Brithiac dans le Sirion.
« Contre tout espoir, enfin nous le trouvons !» s'écria Volonoué. « Voici l'embouchure de la rivière à sec, et voici le chemin qu'il nous faut prendre. »
Alors ils s'engagèrent dans la ravine, et comme elle obliquait vers le nord et que le relief du pays s'accusait, ses rives se firent abruptes de part et d'autre, et Tuor trébucha dans la pénombre parmi les pierres qui jonchaient son lit.
« Si c'est là un chemin, dit-il, c'en est un mauvais pour celui qui est fourbu. »«
C'est pourtant le chemin vers Turgon, dit Volonoué.
« Alors je m'étonne d'autant, dit Tuor, que son accès demeure ouvert et non gardé. Je pensais trouver un grand portail et une garde nombreuse.
« Cela, il te sera encore donné de voir, dit Volonoué. Nous ne sommes qu'aux abords. Une route, ai-je dit. Et cependant, sur cette route, personne n'a passé depuis plus de 300 ans, hors quelques rares messagers secrets. Et les Noldor ont prodigué leur talent pour la dissimuler depuis que le peuple caché l'a empruntée. Est-elle vraiment ouverte à tout vent? L'aurais-tu reconnue si tu n'avais pas eu pour guide quelqu'un du royaume caché? Ou n'aurais-tu vu là que l'œuvre des intempéries et des eaux au cœur de la solitude? Et n'as-tu point vu les aigles? C'est le peuple de Thorondor qui vécut jadis sur le Thangorodrim même avant que Morgoth se soit fait si puissant, et qui depuis la chute de Fingolfin sont établis dans les montagnes de Turgon. Ils sont seuls, hormis les Noldor, à connaître le royaume caché, et ils patrouillent les cieux au-dessus, bien que jusqu'à présent aucun serviteur de l'ennemi n'ait osé voler dans les hautes sphères. Et ils apportent au roi force nouvelle de tout ce qui fait mouvement dans les pays hors les murs. Si nous avions été des orques, ils se seraient saisis de nous, n'en doute point, et d'une très grande hauteur, ils nous auraient fracassés sur l'implacable rocher.
Je n'ai point le doute là-dessus, dit Tuor. Mais je me prends aussi à me demander si les nouvelles de notre approche n'atteindront pas Turgon plus vite que nous. Et toi seul sais si c'est là une bonne ou une mauvaise chose.
« Ni bonne ni mauvaise, dit Volonoué, car nous ne pouvons passer la porte gardée sans être remarqués, que notre venue soit ou non prévue. Et si tant est que nous parvenons jusque-là, les gardes n'auront nul besoin d'être avertis que nous ne sommes pas des orques. Mais pour passer, il nous faudra meilleurs arguments que cela, car tu ne peux deviner, Tuor, le péril auquel nous aurons alors à faire face. Ne me reproche pas, comme si tu n'avais pas été prévenu, ce qui alors peut advenir. Que le pouvoir du Seigneur des Eaux se manifeste, car c'est dans cet unique espoir que j'ai accepté de te servir de guide. Et si cet espoir s'évanouit, alors plus sûrement périrons-nous que par les périls des solitudes et de l'hiver. »
Mais Tuor répondit, « Laisse donc ces présages. La mort dans ces contrées sauvages est chose certaine, et malgré tout ce que tu peux dire, la mort à la porte est encore pour moi chose incertaine. Conduis-moi plus avant. »